C'est pas ça.
L'an dernier, nous avions le plaisir d'accueillir cette semaine de la science dans l'établissement. Cette année, elle a lieu à l'université de Bourgogne à l'occasion de son centenaire. Et je vous invite vivement les élèves à vous y rendre. Je ne doute pas que ce sera aussi passionnant que l'an dernier. Voilà, je passe tout de suite la parole à Cyril.
Oui, moi je vais essayer d'être tout court, mais j'ai quand même pas papier pour essayer de rien oublier. Donc, nous accueillons aujourd'hui Jean-Marc Sardy, qui est donc un ingénieur à la fois.
Juste le micro.
Vraiment, je parle en micro.
Oui, c'est ça.
Et c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière à EDF. Il a fait donc toute sa carrière à EDF. Voilà, ça va. Donc, il a travaillé dans les grandes installations nucléaires en particulier, enfin toutes seules d'ailleurs, de production d'électricité, mais il a aussi travaillé à l'international. Et en particulier en Corée du Sud, en Chine, ainsi que dans les techniques à combustible fossile. Et donc actuellement, il est membre de plusieurs associations. En premier, la SEL, c'est écrit, enfin je vais le citer, la SEL, la Société Française d'énergie nucléaire, pour ceux qui ne le sauraient pas. Sauron Climat, donc une association qui est faite en général, enfin dans laquelle il y a surtout des retraités ingénieurs ou scientifiques en règle générale, qui s'occupent bien évidemment du climat. Et la RCE, il ne faut pas que j'oublie la RCE. Qui est donc organisatrice, co-organisatrice de cette conférence. Et donc aujourd'hui, Jean, tu m'as dit parler des réseaux d'électricité qui sont publics, des outils essentiels de la future neutralité carbone, c'est ce qui va nous montrer. Donc voilà, la conférence est donnée. Pas mal de personnes ici, c'est alors que pour les jeunes élèves de Grenoble, mais également d'autres associations, membres des associations, donc j'ai pas parlé de PNC France non plus, non. PNC France, c'est une des dernières associations qui s'est créée, et c'est ça, c'est la défense du patrimoine nucléaire et du climat. C'est d'ailleurs présidé par Bernard Accoyer, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Donc voilà, c'est une association, toutes les sites, vous voulez, évidemment, les différents tours, et vous saurez ainsi beaucoup d'autres choses. Bien, je crois que je vais laisser Georges intervenir. Pour combien de temps? Un certain temps, on verra. Une heure, d'accord.
Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, vous avez vu le thème. Je vous donne tout de suite le programme. Donc, je vous parle quand même des énergies qui devraient subsister en 2050, ou même en dessous. Je dirai un mot ensuite de la raison pour laquelle les réseaux publics d'électricité sont indispensables, c'est un grand rôle. Je vous dirai également un mot de l'organisation du système électrique européen, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau français n'est plus du tout isolé, il est fortement interconnecté avec les réseaux des pays voisins, et ça, ça démontre des bonnes conséquences. Ensuite, j'aborderai le mur de l'exposé qui concerne les bases fonctionnelles des réseaux électriques actuels. C'est un peu technique, un peu ardu. Je parlerai ensuite des conséquences de l'introduction de l'électricité éolienne dans les réseaux qui change complètement la donne. Et, sur beaucoup d'aspects. Bourgogne, certains domaines en tout cas. Et enfin, je conclurai sur les perspectives 2050, selon les connaissances actuelles, c'est-à-dire en relation modeste. C'est ce que l'on sait actuellement, peut-être que dans 20 ans, on sera plus. C'est pas ça. Donc, je commence tout de suite par l'électricité, qui est appelée à devenir l'énergie traditionnelle de la future fiscalité carbone, je vais utiliser ce terme, que l'on vise pour 2050. La seule autre énergie complémentaire sera la biomasse. Donc vous voyez que le paysage se réduit fortement. Alors un mot sur la neutralité carbone, c'est un état dans lequel les humains n'émettraient pas plus de carbone que ce que la nature peut absorber chaque année. C'est un enjeu extrêmement ambitieux pour fixer les idées. Ça va nous conduire à diviser par entre 4,5 et 6 les émissions de CO2 actuelles. Je ne sais pas si j'ai une idée, mais je pense que c'est important. Pourquoi l'électricité? Tout simplement parce qu'elle peut être produite à partir d'un grand nombre de sources d'énergie primaire. Donc, je pense que tout le monde sait ce qu'est l'énergie primaire. Hein, c'est l'énergie que nous donne la nature. Tout cela en excluant les énergies fossiles carbonées qui sont émettées de le charbon, le pétrole et le gaz. Qui, soit dit en passant, si on quitte le secteur électrique, si on regarde l'ensemble de l'énergie en France, ces énergies carbonées représentent encore les deux tiers de l'énergie totale. Et vous voyez, on va pouvoir se priver des deux tiers de l'énergie totale. Il y a du travail. Alors, que va se dire donc si on enlève ces énergies carbonées? Eh bien, deux sortes d'énergie, l'énergie nucléaire, premièrement, qui est la moins carbonée de tout. Et avec le projet possible d'énergie renouvelable, c'est le ensuite, il y a les énergies renouvelables. Alors là, il y a une grande diversité. Il y a celles qui sont utilisables à grande échelle. Donc, il y a dans l'énergie hydraulique que je viens de citer, celle des fleuves et des lacs d'altitude. Il y a l'énergie du vent, captée, comme vous le savez, par les éoliennes, et l'énergie solaire, qui est essentiellement captée à l'heure actuelle sous forme photovoltaïque. Et il y a ensuite toute une période d'énergie renouvelable, mais qui ne sont utilisables qu'à petite échelle. Bon, il y a la micro-hydraulique qui est intéressante. Il y a l'énergie des mers, l'énergie marémotrice, l'énergie des courants sous-marins, l'énergie des vagues, mais qui sont très très loin d'être sur l'énergie marémotrice, les sites sont très limités, mais les autres sont encore à l'état d'expérimentation, et puis ne donneront jamais des quantités phénoménales. Là, la géothermie également de température, mais la France n'est pas un pays où il est volcanique, donc c'est n'importe quoi. Et il y a la biomasse que j'ai citée tout à l'heure, qui peut aussi servir à faire de l'électricité. La propre propriété extrêmement intéressante de l'électricité, comme vous savez, c'est que c'est un vecteur d'énergie finale. L'énergie finale, c'est une énergie directement utilisable par les consommateurs. C'est une énergie dont les émissions de CO2 peuvent être réduites à celles de la construction et d'entretien des machines de production. C'est une équipe qui n'émette pas, qui émet, on peut la produire sans émettre de CO2 lors de sa production. C'est le gros intérêt donc de cette autre grande question de l'électricité peut-être retransformer pratiquement toutes les autres formes d'énergie. C'est une énergie extrêmement lente, qui est très versatile. On peut faire de l'énergie mécanique, de l'énergie hydraulique, de l'énergie thermique. de l'énergie électromagnétique, de l'énergie chimique, etc., notamment l'hydrogène, on va le mettre en parler. Mais bien sûr, pour être utilisé en masse, l'électricité a besoin de réseaux, à la fois de transport et de distribution, je vais en parler dans un instant. Alors, revenons sur la biomasse, donc, qui est essentielle pour la deuxième énergie. Alors, la biomasse, ce n'est pas autre chose que l'énergie solaire transformée, n'est-ce pas ? Qui est la deuxième source d'énergie non carbonée envisagée pour 2050, mais elle est forcément limitée, par le potentiel du plan. Ce qui est une limitation extrêmement forte, évidemment. Et elle est utilisable sous forme de bois énergie, de déchets végétaux ou de biogaz, mais les applications sont quand même très limitées à la production de chaleur ou la production de biocarburant ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'électricité. Donc ça, c'est le panorama énergétique qui est envisagé pour 2050. Alors pourquoi les réseaux sont très utiles? Ce sont des outils de mise en relation, solidarité, mutualisation, optimisation. Alors je décris ces quatre qualités dans le schéma qui est dessous, là, dans la figure qui est dessous. Ça sert évidemment, ça c'est évidemment relié aux producteurs consommateurs, c'est banal. Ça sert à secourir les zones en déficit d'électricité par les zones annexées. Ça c'est déjà plus intéressant. Et il y a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant encore, c'est que ça permet de mutualiser les moyens de production grâce au foisonnement des consommations. Alors qu'est-ce que le foisonnement des consommations? C'est un effet statistique qui fait que à chaque instant, la totalité des consommateurs n'utilisent pas, j'entends consommateurs industriels, domestiques, tertiaires, tout ce qu'on a, n'utilisent pas la totalité de la puissance installée. Donc statistiquement, en gros, on s'aperçoit qu'ils en utilisent à peu près 20% de cette puissance, d'où ce facteur, à l'échelle de la France, une division par 5 à 6 des capacités de production nécessaires. Donc ça, c'est un point absolument fondamental. Si on n'avait pas cet effet de foisonnement, il faudrait beaucoup plus de moyens de production qui coûteraient beaucoup plus cher par conséquent. Voilà. Les réseaux, il y en a de plusieurs types, réseaux publics, qui sont très différents. Il y a les grands réseaux nationaux de type de transport d'électricité qui servent à transporter à longue distance et qui fonctionnent en tension, très haute tension, tout simplement parce que plus on élève la tension, moins il y a de pertes en transport. Alors ces grands réseaux nationaux, ils sont interconnectés avec les réseaux voisins pour constituer un réseau européen, et puis ils alimentent à la base le réseau dit de distribution qui lui fonctionne dans des tensions moyennes ou basses pour alimenter directement les différents consommateurs. Et puis il y a dans les îles, là, il y a aussi l'électricité, les îles isolées, avec en route des lignes à 400 000 volts et en mer 1920 watts. C'est un réseau qui est fortement voyé pour une raison simple à comprendre, c'est que si une ligne, si on perd une ligne pour une raison ou une autre, il y aura une mort, eh bien l'alimentation passe par d'autres lignes. Donc il est indispensable d'avoir ce maillage pour des raisons de sécurité alimentaire. Et ce réseau il est par ailleurs très fortement interconnecté avec le réseau européen. Ce qu'on appelle la plaque continentale européenne, qui est la plus grande part du réseau européen. C'est là qu'on trouve les grands pays comme l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, la Pologne. Et tout ça, ça fonctionne de façon absolument synchrone. Voilà. Donc voilà comment fonctionne notre réseau dans le contexte européen. Alors, des choses un peu plus techniques. Les bases fonctionnelles des réseaux en courant alternatif déphasés. Alors, on voit tout cela la géniale invention du champ magnétique courant constant par Nikola Tesla en 1891. Vous voyez que ça fait un peu plus de 130 ans. Et c'est une invention qui fait fonctionner tous les réseaux de la planète. Alors là, comment cela fonctionne? Comment fait-on un champ tournant magnétique constant, un module constant? C'est le principe figuré ici sur la gauche. Vous disposez d'une bobine d'induction qui crée des champs magnétiques dans l'espace ici décalé de 1 tiers de circonférence. Et puis vous alimentez ça, trois courants sinusoïdaux et la tête de la terre inférieure. Et vous avez un phénomène miraculeux qui se produit, c'est que chaque bobine crée un champ magnétique ici, bleu, vert et rouge, qui varie en permanence, mais dans le sang, et tout à fait constant, donne un module constant qui se met à tourner gentiment de façon régulière à la fréquence de 50 Hz. Alors ça c'est extrêmement intéressant, pourquoi? Parce que ça a permis de faire des alternateurs, des moteurs synchrones de très grande puissance. C'est la figure de droite là. Vous voyez, j'ai relevé ici le condensateur qui tourne. Donc, comme son nom l'indique, si vous mettez dans ce champ tournant un aimant constant, un aimant permanent, qui tourne autour de l'axe perpendiculaire à la figure là, et bien il va être entraîné par ce champ tournant, puisque les pôles nord et sud des Saturnes, vous le savez. Et donc, avec ça, vous avez construit le principe d'un moteur synchrone. Si maintenant l'aimant, vous le faites passer de l'autre côté et vous lui donnez un petit peu le moteur, c'est lui qui va attirer le champ tournant. Et donc, vous avez créé un alternateur. Donc, sur le principe, c'est finalement assez simple. Mais c'est à la base donc, du fonctionnement de tous les réseaux. Alors, point important, ce champ tournant du stator et du rotor qui tourne donc exactement à la même vitesse. Ils sont liés par tout près avec le synchrone. Ceci vient en interne. L'Angleterre ici, qui est entre les deux, hein, qui est une image de la puissance échangée, soit si c'est un alimentateur, soit si c'est un synchrone, ou si c'est un la puissance échangée est imagée ici par ce point. Alors maintenant, si dans un réseau il n'y a pas qu'un alimentateur, il y a beaucoup, si vous mettez un alimentateur que vous ne voulez pas porter au réseau, eh bien, ils se mettent à tourner tous exactement à la même vitesse. Une fois que vous rencontrez, bien sûr, tout ça passe par ce drone, et ils communiquent instantanément. C'est très rapide, ça se fait à une fraction de vitesse de la lumière, via la fréquence commune du réseau. Et ce paramètre est extrêmement important, puisque c'est un indicateur global qui concerne l'ensemble du réseau, et il caractérise un déséquilibre éventuel entre la production et la consommation, parce que le problème de la production d'électricité, c'est qu'on ne peut pas la stocker à grande échelle dans notre terre. Donc il faut tout instant assurer l'exactitude, l'égalité exacte de la production et de la consommation dans des limites extrêmement élevantes sur lesquelles j'ai revenu tout à l'heure. Donc voilà, et tout ça c'est la fréquence qui nous donne l'équipe domiciliaire, puisque s'il y a un déficit de production, la fréquence baisse, et s'il y a un excès de production, la fréquence augmente. Alors, les atouts de ce système triphasé concernant la stabilité instantanée des réseaux. Le problème de ces réseaux qui sont en équilibre permanent, c'est évidemment qu'il faut assurer leur stabilité. Et c'est un équilibre qui est précaire si on l'assure pas. Alors, les facteurs qui permettent d'assurer cette stabilité, de deux ordres essentiels. D'abord, ils proviennent de l'inertie naturelle des machines utilisées, c'est-à-dire des coupures programmables. Ce sont des rotors de ces machines, ce sont des masses tendantes qui se comportent comme des volants d'inertie, donc qui accumulent, qui ont deux effets stabilisateurs complémentaires. Premièrement, un effet mécanique, en ce sens que une inertie mécanique ralentit la variation totale de vitesse des rotors, donc de fréquence. C'est deux éléments étroitement liés. Et c'est un effet énergétique, de stockage et déstockage d'énergie cinétique, qui est autorégulant. Pourquoi ? Parce que si la fréquence baisse, la vitesse des volants d'inertie des machines diminuent, donc ils perdent de l'énergie cinétique qui se retrouve injectée par liaison magnétique dans le réseau. Et donc il y a tendance à soutenir la fréquence. Alors là, vous avez la figure d'un transitoire lors de la perte d'une grosse machine sur un réseau. Deux courbes, une courbe rouge qui correspond à une inertie importante. Et une courbe bleue pointillée qui correspond à une inertie beaucoup plus faible. Vous voyez tout de suite la différence de comportement de la fréquence. Et quand on a une grande inertie, on descend moins vite ici, à l'origine. C'est ce qu'on appelle le Markov à l'origine, je vous dis tout à l'heure dessus. C'est la dérivée, à l'origine du transitoire. Et on descend beaucoup moins en fréquence, quand on a beaucoup d'inertie, quand on a peu d'inertie, on descend plus vite et plus profondément. Voilà. Et donc, moins on a d'inertie, plus le réseau se va manger, parce que plus, finalement, c'est difficile de contrôler sa fréquence. Alors, quelques ordres de grandeur, le consomme de temps ici pour atteindre la fréquence minimum et un incident de perte. C'est l'ordre de 10 à 2 par seconde sur le réseau européen pour un perte de 3 gigawatts ou 3 000 mégawatts. Par contre, sur les réseaux des îles qui sont beaucoup plus petits et qui ont des machines plus petites, les choses se passent beaucoup plus vite, ça se passe en moins de 5 secondes. Alors, l'autre intérêt, le troisième intérêt de l'inertie en fait, c'est de laisser au régulateur de puissance des turbines qui entraînent des alternateurs le temps d'agir. Si vous avez un transitoire qui est relativement lent, vous avez le temps de modifier la puissance des machines pour rétablir l'équilibre. Ça se fait avec une loi de régulation proportionnelle qui est très simple, hein, de la forme de l'AFP, égale ou moins K réglé par l'AFP. Alors pourquoi moins ? Parce que, évidemment, si la fréquence baisse, il faut avoir une réaction positive sur l'AFP pour augmenter la puissance. Et vice-versa, c'est la puissance en moins. Alors, donc, si on résume le signal de fréquence commune qui déclenche instantanément les régulations de tous les alternateurs qui participent au réglage pour combattre la puissance, ça, c'est intéressant parce que on partage la tâche entre les machines et la participation militaire des chefs d'aviateurs en électro-image peut être limitée à quelque chose comme plus ou moins 2% de la puissance de machine. Et ça, ça, c'est précieux parce que ça réduit le temps de course. Faire varier la puissance d'une machine de 2%, ça se fait assez vite. Si on concentrait les réglages sur un nombre de machines plus faible, il faudrait monter les taux plus importants. Alors, un mot sur les paramètres importants à maintenir en permanence dans des trois pays, sur un réseau. Il y a déjà la fréquence F dont j'ai déjà entendu parler, qui est le paramètre global du réseau, et donc l'image, comme je l'ai dit, de l'équilibre en commission consommation. Alors, ce paramètre est parfaitement fluctuant en permanence autour de sa valeur nominale de 50 Hz. Et ceci en fonction des variations de la consommation. C'était avant l'injection et de l'électricité variable et intermittente des éoliennes et des photovoltaïques. Depuis qu'on injecte cette électricité, les variations, la variation s'ajoute indirectement à cette consommation. Et donc, on aboutit finalement, on constate à des variations combinées des deux, qui sont très supérieures à celles de la seule consommation. Donc, c'est un des premiers problèmes de l'introduction de ces cependant, malgré ces variations, ces perturbations, on n'a pas changé les limites. Hein, la fréquence F doit toujours rester dans des limites strictes à changer. Tout ça pour assurer la sécurité des réseaux et le bon fonctionnement des machines de production, ainsi que des récepteurs, des consommateurs, et les deux sont nécessaires. Alors, je vous rappelle ici en exploitation, la plage normale, c'est 50 Hz plus ou moins 1%, c'est-à-dire plus ou moins 0,5 Hz. Vous voyez que ce n'est pas énorme. Avec plusieurs autres limites qui servent d'alerte qui sont des limites basses, l'alerte de fréquence basse critique, des moins 0,3 Hz. La limite basse de sécurité définie par l'ASOE est à 42,2 Hz, et on passe dans une zone de risque extrêmement élevé de délestage incontrôlé. Délestage incontrôlé, ça veut dire de perte de maison, en fait, à la limite, à la risque de retard. Si on descend à 49 Hz ou à force élevée au-dessus. Voilà. Donc vous voyez, le maintien de l'équilibre et quand même se fait dans des limites extrêmement importantes. Alors la tension U, c'est l'autre paramètre de base qui caractérise un réseau. Il est plus global, il est géographique, c'est local ou régional. Et sa plage admissible de fonctionnement est beaucoup plus large, puisque on peut admettre en régime normal plus ou moins 7% sans avoir et exceptionnellement, on peut construire cette valeur en plus ou moins 10%, mais seulement pendant quelques minutes parce qu'il y a d'autres effets plus complexes. Donc, et les moyens, et enfin pour terminer, les moyens de réglage de ces deux paramètres essentiels de réseau, ce sont tout simplement les comportements de la matière synchrone. Bon, je n'ai pas le temps de les détailler, c'est assez complexe, mais on peut régler leurs paramètres pour régler leur. Alors, je change maintenant le champ d'énergie et j'aborde la question de l'introduction d'électricité variable et intermittente, et donc d'origine d'éolienne ou photovoltaïque, et ceci change complètement la vie. Alors, il y a deux raisons principales. La première raison, c'est que j'ai déjà évoqué un petit peu dessus. Tout à l'heure, c'est qu'elle introduit une variabilité aléatoire dans la production d'électricité. Et on ne peut pas, après cela, elle doit être compensée par différents moyens. je vais vous présenter dans un instant. Et là, là, vous avez trois figures. En haut, à gauche, vous avez la production éolienne du mois de novembre 2020. C'est un exemple, et tous les mois de l'année ont des variations qui ressemblent beaucoup à celle-là. Donc, vous voyez que c'est quand même assez difficile de gérer des pics ici qui sont très élevés et puis des valeurs ici qui sont très proches du zéro, qui sont en tout cas très faibles. Alors, au-dessous, j'ai figuré l'exemple de production photovoltaïque pour une journée. Alors, ça se caractérise par une partie qui est à zéro ici. Le matin, c'est un peu décalé la journée, c'est pas égal le matin et le soir, c'est un mois de mois ici, donc vous êtes à zéro parce que c'est le soleil, et puis vous voyez quand même une forte variation ici le matin, le soleil mort, et des perturbations éventuelles qui sont dues à des passages nuageux, des orages, des choses comme ça, et puis une renaissance du soir. Alors, quand vous avez uniquement ces deux énergies-là, ces deux sources d'électricité qui varient de cette façon, il est très difficile de satisfaire les courbes de consommation qui sont ici. Ce troisième schéma, vous avez en haut la courbe de consommation physique d'une journée d'hiver, avec une consommation qui est élevée. Là, par exemple, ici, vous êtes autour de 80 gigawatts. C'est beaucoup. Avec un pic caractéristique à 19 heures et un pic qui est de plus en plus important maintenant autour de midi, ce qui va être évidemment moins marqué. La courbe rouge, c'est une courbe de demi-saison qui ressemble beaucoup à la courbe hivernale. Et la courbe verte, c'est une courbe d'été qui elle est beaucoup plus basse quand même. Et la plus particulière chose que 19 heures, pour une simple raison, c'est qu'on n'aime pas beaucoup les lumières, 19 heures, on est. Voilà. Alors, mais le point important à retenir, c'est que vous voyez bien qu'il n'y a aucune corrélation, ou en tout cas très peu, une corrélation très faible, entre les productions qui sont ici à gauche et les consommations. Donc il faut impérativement faire quelque chose. Alors, ce quelque chose, c'est que, sachant que cette électricité variable et intermittente est capable d'assurer un seul équilibre, production-consommation, on commence à faire appel à des participations diverses et variées. Alors, si je commence par le haut ici, un recours accru aux importations et exportations, à condition que dans les pays voisins, les disponibilités, parce que c'est pas toujours garanti. Ceci implique de renforcer les interconnexions entre pays. Elles sont déjà importantes, mais elles ne sont pas encore assez. Il faudra faire un jour participer le photovoltaïque et les éoliennes au réglage de puissance, mais ce n'est pas encore fait parce que c'est compliqué et c'est peu efficace. Alors, par contre, ici, le troisième poste ici, très important, c'est le stockage massif d'énergie, qui n'est encore pas mis en œuvre sur les échelles moyennes, mais qui deviendra indispensable pour les réseaux qui ont un taux extrêmement important d'éoliennes de photovoltaïque. Un autre levier intéressant, c'est la gestion active de la demande. Ça signifie en clair que soit on dépasse une partie de la demande, soit on la reprend. Et la gestion active de la demande, il se trouve bien qu'on expérimente l'hiver prochain,
si lors de certaines vagues de si à l'époque de consommation s'est fait très froid, on sera certainement obligé, y compris au niveau des foyers domestiques, d'éteindre pas mal de lumières, de ne pas mettre en route des fours, de différer des machines à laver, des choses comme ça, pour diminuer la demande. Sachant qu'il y a aussi des industriels qui ont une capacité de s'établir sans. Voilà. Donc voilà, c'est tout cet ensemble de mesures qu'il faudra prendre pour faire face à l'augmentation des énergies intermittentes, sachant que tout cela va conduire à une gestion des perturbations qui sera due à des augmentations très fortes des ventes de plus, qui va devenir difficile, qui va devoir être faite en temps réel. Et donc, en temps réel, les humains ne sont pas très performants. Et donc, il faudra développer de l'intelligence artificielle qui gérera cet ensemble qui va bouger dans tous les sens. On appelle ça l'instant public, je ne sais pas si vous en avez parlé de ça. On ne sait pas encore très bien ce que ça recouvre. Hein. C'est pas encore bien défini. Avec quand même un problème, deux problèmes. C'est du travail pour mais surtout, ça va générer de nouveaux risques de cybersécurité. Si vous suivez un peu l'actualité, la cybersécurité dans les organismes, les entreprises, c'est un problème qui croît et évolue de plus en plus et qu'on a mis tout dans le réseau parce qu'on n'a pas assez d'experts en cybersécurité. Donc, s'il y a des candidats, si parmi les jeunes générations il y a des candidats, c'est un boulot qui est promis à un extraordinaire avenir. Ça c'est certain, hein, parce qu'on va numériser l'économie en général, et donc les problèmes de cybersécurité ils vont croître en volume de façon énorme. Bon, je passe sur cet aparté, mais tout ça, ça ne va pas suffire, mais il faudra quand même garder pendant très longtemps, voire tout le temps, parce que c'est une question sur un support indispensable par des moyens pilotables, c'est-à-dire des moyens de on appelle ça backup en anglais. Tout ça pour soit pour faire un point de secours des moyens variables et intermittents qui ne sont pas suffisants, ce qui arrive souvent, soit pour s'effacer la qualité d'électricité variable et intermittent, et ça s'est déjà produit. Certainement, il y a beaucoup de vent dans beaucoup de soleil, et bien on est obligé, surtout si la consommation est basse, on est obligé d'arrêter un certain nombre de intermittents, parce que sinon la fréquence dépasserait cette limite. Sachant que ces moyens-là, pour l'instant, c'est prioritaire en France. Alors, je continue sur la deuxième raison qui est une révolution vis-à-vis du fonctionnement des réseaux, c'est le fait que le mode de couplage au réseau des éoliennes et des panneaux est très différent. Le couplage électromagnétique des alternateurs est carrément remplacé par un couplage électronique par des ondes de puissance. Ça change énormément de choses. Là je suis tout ici pour rappel le schéma d'une production d'électricité par une machine 50 pilotable. Vous voyez, on est en part d'énergie primaire, soit hydraulique, soit fossile, soit nucléaire, quelques autres. On fait tourner une turbine avec ça, qui est en train de mettre un majeur de 50 à 50 Hz, et puis les émissions de réseau. Alors, sachant que cet interrupteur, il a la capacité de former le réseau en fréquence F en temps sur U, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il apporte son énergie mécanique et son énergie cinétique. Donc, avec ça, on est dans le fonctionnement classique. Pour une production d'électricité photovoltaïque, c'est différent, on part de l'énergie solaire,
Et grâce à des panneaux photovoltaïques, on produit du courant continu. Qu'on ne peut évidemment pas injecter sur un réseau en cours de la crise, donc il faut passer par les ondulaires, les ondulaires. Et les suiveurs, parce que les ondulaires qu'on utilise actuellement sont suiveurs en ce sens qu'ils se contentent de suivre la fréquence du réseau, définie par les interrupteurs, mais ils ne sont pas capables de la créer. Donc ils ont besoin d'un réseau qui existe déjà pour en éviter leur intermittence. Alors le schéma d'une éolienne, c'est plus compliqué. On parle donc de l'énergie du vent. Il y a qui en fait des lignes de l'éolienne qui va fournir une énergie mécanique, qui va entraîner un alternateur à fréquence variable, parce que ce sont des éoliennes de vitesse variable. Alors pourquoi sont-elles à vitesse variable? Tout simplement parce que la vitesse variable permet d'optimiser la captation de l'énergie du vent. Avec une vitesse fixe, on capte très très mal l'énergie du vent. Toutes les éoliennes modernes, comme on les installe maintenant, sont à vitesse variable et sont des sujets. Donc, là, on utilise toujours le ventilateur, mais on ne peut pas éjecter, on ne peut pas le couper directement, puisqu'il ne fonctionne pas à vitesse, il fonctionne à vitesse variable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et on redresse le courant, et puis on l'enduit à nouveau à 50 Hz pour que il puisse être éjecté. Voilà. Alors, on pourrait penser que des lignes de l'éolienne à l'hiver ci, ce qui est vrai, et on ne peut pas la récupérer en tant que telle, de la situation de l'hiver. Elle a aussi de l'énergie cinétique emmagasinée, qui peut elle être partiellement réinjectée dans le réseau par des moyens un peu complexes. Mais ça, bon, c'est très peu utilisé pour l'instant. Autre problème climatique important, les plafonds des ondulaires de puissance sont très inférieurs à ceux des alternateurs et des surprises sur la mesure de l'air. Et ceci a des conséquences négatives utiles pour le fonctionnement des réseaux. Je ne vais peut-être pas tout vous détailler. Alors, il y a à gauche les points faibles des ondulaires et des plafonds de puissance. Au milieu, les conséquences sur le réseau et à droite des moyens palliatifs possibles. Je ne vais pas tout vous détailler parce que c'est sans doute un peu long. Je vais juste focaliser sur deux points dont j'ai déjà parlé d'ailleurs. C'est l'absence d'apport d'inertie. Donc, comme je l'ai déjà signalé, plus et plus on met d'ondulaire sur le réseau, plus l'inertie globale du réseau diminue, donc avec donc, des risques d'instabilité qui apparaissent au niveau de la surface. La solution connue, c'est l'ajout de compensateurs synchrones, qui sont des alternateurs en fait, coupés au réseau, qui uniquement la vie sans tout le monde. Et donc, ils sont là pour apporter de l'inertie et également de la capacité de. Je vais revenir là-dessus. Bon, je passe au deuxième point parce que c'est compliqué. Je vais plutôt parler du. Je ne parlerai pas beaucoup du dernier, qui est assez simple finalement. Excusez-moi. Je vais insister sur le problème des ondulaires actuels. Comme je l'ai dit, ce sont des ondulaires suiveurs, vous les followez en anglais. Qui fonctionne comme le simple source de courant. Et donc, pour le réseau, il apporte évidemment de la puissance, du soleil, mais il ne peut pas le franchir, contrairement à l'alternateur. Donc, on a inventé un autre ondulaire plus complexe, qu'on appelle le plus formé, et qui sont eux capables de former le réseau. Comment cela fonctionne-t-il? Ben, ce sont des ondulaires qui reproduisent de façon électronique en interne les équations internes des alternateurs. Simplement, ceci a été dit, je vais revenir sur ceci. Alors, il y a juste un domaine dans lequel les ondulaires ont une supériorité, c'est qu'ils permettent des temps de réponse, ils ont des temps de réponse très chers, c'est l'électronique, ont des temps de réponse très inférieurs à ceux des ordinateurs, et ils permettent donc de faire. Ce qui était dit en bas, le réglage rapide des plusieurs fréquences en moins d'une seconde. En fait, les ensembles de batteries en longueur permettent d'injecter les puissances, la puissance de la batterie en moins d'une seconde. Alors ça peut avoir un certain intérêt, y compris sur les autres, mais ce n'est pas le cas. Alors, donc, je reviens maintenant à la question. Juste pour pouvoir passer les alternateurs par des onduleurs pour former le réseau dans des conditions de stabilité et de sécurité dans les zones. Alors, là j'ai dit que quelques étapes à la fin soient envisagées en termes de maximum de puissance d'ajouter des onduleurs, parce que ça dépend des pays européens, mais les pays européens qui en ont le plus sont en valeur moyenne annuelle, injectent en valeur moyenne annuelle 40% de l'électricité. Et en valeur instantanée, entre 25 et 75% selon l'inertie du réseau, c'est-à-dire selon qu'il y a beaucoup d'alternatives qui restent pour le réseau. Et l'ambition pour le futur, c'est de passer ces 40%, de faire évoluer les 75%. Puis, certains ont l'ambition d'aller jusqu'à 90-95% plus tard. Et ça, en moyenne annuelle, et en valeur instantanée, ça impliquera d'être pratiquement à 100%, 100% de l'alimentation en existence. Alors, dans la situation actuelle, bien le réseau n'est pas encore dans la révolution, puisque le réseau va se former, c'est toujours le cas par des alternateurs qui sont en niveau linéaire, avec un complément de linéaire suiveur. Mais le jour où on aura trop peu d'alternateurs résiduels, qui subsisteront dans les énergies renouvelables pour l'hydraulique ou pour les utilisations de biogaz ou de gaz de synthèse et d'hydrogène, eh bien le jour où on en aura insuffisamment pour former un réseau, eh bien il faudra bien trouver une autre solution, c'est-à-dire utiliser un réseau formé par des onduleurs formant le réseau, qui sont censés devenir majoritaires avec toujours un complément d'onduleurs suiveurs inférieurs. Ceci étant dit, on est à l'heure actuelle devant des défis techniques absolument considérables sur ce plan-là. Pour être capable d'aller vers les sites de suite. Alors, il y a deux points majeurs. Le premier concerne les incertitudes de fonctionnement des onduleurs formant le réseau. Alors, pourquoi les sites de suite? Parce qu'ils en sont encore au stade des laboratoires et des micro-réseaux expérimentaux. C'est toute la fidélité de faire un laboratoire sur le micro-réseau, mais il y a a priori un seul onduleur qui marche tout seul. Donc là ça fonctionne assez bien. Par contre, et ça c'est pas du tout une carrière, c'est la capacité à fonctionner, c'est le premier point de voir, là, pour la capacité à fonctionner en parallèle, en pendant, de façon stable et sûre sur un grand réseau. Évidemment, sur un grand réseau, il en faudra des centaines, des milliers. Donc, personne ne sait si ça va fonctionner. L'autre point difficile, c'est la protection des fonctionnaires qui sont informatisés de ces onduleurs, en forme de réseau, et de leur liaison formalisée à longue distance pour les contrôler à longue distance. Et donc ça fait apparaître une nouvelle vulnérabilité par rapport au couplage électromagnétique actuel des ordinateurs qui se font à haute énergie, qui sont parfaitement insensibles. possible, aussi bien ça pas. Alors, le deuxième point, dont j'ai déjà montré, il faut en parler parce que ça reste un point bloquant, c'est la diminution massive de l'indispensable, diversité du réseau, qui résulte donc d'un taux trop élevé d'énergie intermittente et variable. Alors, cette indispensable inertie est quantifiée par un compteur que j'ai évoqué tout à l'heure. Hein, c'est la description, c'est ici en anglais. En fait, c'est la dérivée à l'origine de la transitoire. Alors, sachant qu'il s'exprime en x par seconde, qu'il est proportionnel à la distance perdue delta V, c'est en degré égal à 0, qu'il est inversement proportionnel à l'énergie cinétique du réseau. Donc, en fait, la diversité du réseau, c'est l'énergie cinétique de l'image, qui subsiste après la perte de puissance, soit d'un moyen de production qui est capable, soit d'une division en deux parties au plus du réseau, qui donne lieu d'ailleurs par des transitoires beaucoup plus violents. Alors, c'est quantifié par l'équation d'ici, qui est une équation qui est sur le côté de 50 fois la lettre de l'énergie, 50, c'est la fréquence. Sur deux fois l'écart de l'énergie du réseau, moins l'énergie thermique, voilà comment ça se mesure. Alors, quelques valeurs caractéristiques de ce record pour bien voir quelle est l'évolution. Dans les grands réseaux européens, avant l'introduction d'Ambuller, connectant les sources variables et intermittentes, on était à un contrôle de l'ordre de 0,1 à 0,13 hertz par seconde. Donc vous voyez, c'est une variation énorme et qui permet de rétablir l'équilibre de façon satisfaisante grâce aux régulateurs. On a le temps de voir les deux. Sur le petit réseau de l'île Hernandez, qui est un laboratoire avancé. Pourquoi? Parce que c'est un réseau qui est peu interconnecté à l'extérieur. Le taux de pénétration de puissance variable intermittente est plus élevé, avec des montants plus élevés. Alors, ce qui est atteint, ce qui est visé, c'est résumé ici, en valeur environ, en valeur moyenne ici, et en valeur maximale. À l'heure actuelle, le diamant réussit à avoir, c'est celui le plus avancé, réussit à avoir 11% en moyenne, et 70-73% maximum en 25 années. Et avec Bonkoff qui a augmenté jusqu'à 0,5 hertz par seconde. Donc ça traduit une baisse d'inertie importante déjà. Et ce qui est visé en 2030, c'est-à-dire c'est bientôt 2030, hein, mais c'est pas encore le bout du chemin, c'est de passer ici à 70% en valeur moyenne. Et même dans 50% ici en valeur instantanée. Et il y aura des âges jusqu'à un record de 1 hertz par seconde qui devient critique. Il devient critique, y compris pour le grand niveau européen. Alors, il faudra pour cela qu'ils ajoutent des compensateurs synchrones et qu'ils fassent le réglage de puissance fréquence très rapide par la technique du ordinateur que vous avez indiqué tout à l'heure. C'est pas gagné. Alors, si on revient sur le grand réseau européen, l'aide sur eux a émis une alerte la fin de l'année dernière, sur le fait qu'il ne fallait pas dépasser un niveau maximum sur la carte européenne. Tout ça pour garder la stabilité et la sécurité de la population de l'économie. je passe sur les raisons, en fait, un peu compliquées, mais toutes les raisons conduisent à augmenter l'emploi, puisqu'on diminue, on augmente les pertes de vieilles paquets transitoires et on diminue l'énergie des réseaux. Et l'alerte de l'ASE, c'est que l'euro-off doit rester strictement au-dessus de 1 Hz par seconde de toute la stock. Ça semble être une limite infranchissable, qui est facile à comprendre d'ailleurs, parce que 1 Hz de baisse par seconde, ça veut dire qu'en une seconde, vous avez dépassé la limite basse de stabilité du réseau. Vous avez perdu un peu l'air, c'est franchement si
c'est ça.
Alors, bien sûr, l'objectif c'est de baisser la régulation de puissance fréquence, même cette technologie rapide ne peuvent pas aller plus vite, hein. Ils ont pas le temps d'agir. Si elles n'ont pas le temps d'agir, il y a des fréquences qui sont plus intéressantes. Et la solution préconisée, est simple, hein, c'est tout simplement d'ajouter de l'énergie au réseau européen pour maintenir une valeur suffisante. Alors, l'ASE a quantifié cette énergie nécessaire en équivalent de la chiffre en 50 à installer en plus. Dans sa figure dans le tableau ici, là, c'est dans la première colonne les exercices selon l'ASE, l'équivalent à la chaîne synchrone, qui sont soit des homo-interrupteurs qui fonctionnent à l'hydrogène, parce que de façon décarbonée, au niveau biogaz, qui sont décarbonés, soit ils font dans la chaîne synchrone, et ils ont le droit d'être rajoutés, et ça, c'est une valeur de gigawatts, des milliers de gigawatts. Donc, selon l'ASE, il en faudra 100 ou plus.
À l'heure actuelle, la
personne ne peut garantir que ça puisse marcher. Alors, face à un tel pari, j'ai mis ici les choix possibles, en fait, qui sont assez extrêmes entre l'Allemagne et la France pour 2050. Alors, à la colonne de gauche, il y a l'écologie, le macro et le paysage, il y a le nucléaire, il y a l'hydraulique et la biomasse plus que les autres, et il y a l'éolienne du côté. Et comme il faudra stabiliser le réseau à beaucoup de périodes, il faudra avoir aussi des tiroirs d'ordinateurs qui fonctionnent avec l'hydrogène, tout ça pour les projets, ou des gaz. Il faudra pour cela des stockages d'hydrogène associés, parce que ça va fonctionner ces machines, et il faudra éventuellement porter l'hydrogène. Et puis, bon, pour mémoire, j'ai invité pour les certains instruments. Alors, l'Allemagne est capitaine à Rome, tout à l'heure. Donc, elle s'orient respectivement vers un réseau formé par les ONG, avec 0% de nucléaire, parce qu'elle a des idées. Qui devrait être effectif, même si on prolonge deux ou trois dernières heures pendant encore quelques mois en 2023, pour en 2023, elle sera à zéro. Son hydraulique et sa biomasse en 2050 représentent un peu de choses parce qu'elle va devoir produire énormément plus d'énergie. Et elle n'a pas de possibilité d'extension de ses ressources. Et donc, on arrive à la conclusion qu'elle va devoir produire 90% de l'énergie avec des éoliennes et des photovoltaïques. C'est extrêmement osé. Et elle aura besoin de façon certaine d'un très grand nombre de transformateurs électrogènes pour équilibrer son réseau comme un passé conventionnel. Et pour ça, des capacités extrêmement importantes de stockage d'hydrogène. Et enfin, ces capacités seront tellement importantes qu'elle a déjà prévu d'importer 70 à 75% de ses besoins. Alors, importez-vous, deux pays importés d'hydrogène, deux pays fabriqués par le photovoltaïque dans des pays en Suède. Soit de l'Afrique du Nord, soit de l'Orient, soit du Chili, soit d'ailleurs, sachant que ça peut se mettre des problèmes, transporter de l'hydrogène d'un moyen de moins de 150 degrés, c'est extrêmement froid, c'est très difficile, je ne dis pas que c'est possible de donc c'est se mettre parce que la dépendance au nombre de l'étranger n'est pas ça de l'âge. Et il faudra aussi beaucoup de certains étrangers. Alors la France a fait le choix de la continuité qui évite de faire ce morceau technologique qui permet de rester dans un réseau formé par des informateurs. Donc avec un choc majoritaire qui devrait être normalement d'au moins 50% et si possible 60% actuellement, environ 10% des projets possibles, parce qu'il y a quelques extensions possibles partout, et ce qui réduit la contribution du photovoltaïque est quelque chose de beaucoup plus raisonnable qui se situe entre 20 et 40%. Et ça, on s'est maîtrisé. C'est déjà utilisé dans tous les sujets. Donc, on aura besoin de très peu de turbo-réfracteurs hydrogène qui nous seront utilisés dans les villes comme je vous dis tout à l'heure, sur la République de la Tendance. Une capacité limitée d'hydrogène limitée également, et la force que l'on n'a pas d'importer l'hydrogène. L'hydrogène nécessaire sera limité et fabriqué dans le pays. Alors, j'arrive vraiment à la conclusion là. Si on regarde tout ça d'un œil parfaitement objectif, refuser le nucléaire qui est en fait la seule source d'énergie qui soit à la fois une carbonie pilotable et carbonée à très grande échelle, ou bien ça a des conséquences majeures. Un saut, prenez-moi un saut dans l'inconnu que j'ai maintenant développé ici, concernant le fonctionnement de la sécurité des réseaux, qui va créer une infrastructure d'apprentissage. Sans électricité, vous avez dit, se porte plus dessus, très bien. D'autant plus que l'électricité sera, dans le secteur, la principale source d'énergie disponible. Comme je l'ai dit au début. Donc, quand on voit ça, on se dit que prendre des risques sur cette production, c'est un pari extrêmement risqué. Alors, le reste des points, là, c'est. Il faudra, si on s'occupe du nucléaire et qu'il s'occupe du nucléaire condamné à d'énormes capacités installées en géolien, en terre, en mer et en éolien, sachant que les éoliennes en terre ne sont pas très bien acceptées et les éoliennes en mer sont sans doute un peu mieux, mais pas tellement partout parce que ça crée des problèmes avec la pêche. Le photovoltaïque, c'est un peu plus simple, le sol sur les grandes centrales et en but de faire la disponibilité de surface de sol. Voilà. Alors, exemple, l'Allemagne, elle a déjà le parc d'Europe le plus instable, le plus important, en éolien et le photovoltaïque, mais malgré ce parc le plus important, mais ce coup, on va devoir passer à 90% en 2050, et sa production est maintenue après lui de louper sa production. Donc, un petit calcul de voie de table est extrêmement simple pour montrer le fait qu'on va devoir multiplier par 5, bien entendu, son parc éolien et hydroélectrique actuel, qui est déjà très important. Bon, ça pose des questions, je pense. Il faudra aussi des énormes capacités en moyen pilotable qui ont qui, dans une logique décarbonée, devront réduire que la transformation d'énergie stockée est même décarbonée. C'est-à-dire, essentiellement à cette échelle, les sols hydrogènes de très grande capacité. Pour compenser les autres électricités qui sont soit massifs, qui sont des arbres, qui seront encore plus, soit massifs lors des années 1900, parce qu'il y a des éléments dans la société, si on a un genre de et soit des mondes de marbre. Qui ont été conservés, qui peuvent travailler, qui peuvent être soumis à la partie de l'art mental, mais ça va être clair, donc il est très bien utilisé. Alors, il y a ceci en train des coûts également extrêmement élevés, puisque les fabriquer de l'électricité à partir de l'hydrogène, ça a été chiffré par un FTE à des prix de l'ordre de 150 euros par mégawatt d'heure, ce sont des prix très élevés, à 5 ans, ils ont même des prix. À comparer à des prix pour le zoo nucléaire de CD qui devrait s'établir pour le résultat de la prochaine. Donc, si on peut conclure en une phrase, le choix allemand, et qui est plus largement le choix européen, largement inspiré par la commission qui est même largement inspirée par l'Allemagne, plus à 200% de dollars, depuis le moment, à part les seules exceptions, à part l'exception que je viens de dire dans ce que je fais pour l'instant, il y a quand même un souverain de l'Union qui apparaît très risqué pour, encore une fois, un système d'importance vitale comme le système de l'Union.
peut pas dire que vous avez une généralisation de l'État, parce que les choses pour le Norvège, qui est un grand pays dans la société ici, un petit pays dans la population, c'est une bonne idée de l'État. Donc, il y a déjà 96% de l'électricité renouvelable. Parce qu'elle a un potentiel d'hydroélectricité qui est absolument considérable. Et on dit que c'est grâce à ça. Mais c'est un cas tout à fait particulier qui est lié à la fois la géographie et à la fois. ce sera de fabriquer l'hydrogène, de l'importer et de le réutiliser pour faire de l'électricité quand il n'y aura pas besoin de soleil. C'est la seule bonne échelle. Voilà. Mais je suis d'accord. Utiliser les batteries des voitures, oui, jusqu'à un certain point, parce que d'abord, il faut qu'elles soient branchées. Deuxièmement, il faut quand même que les gens trouvent une voiture suffisamment chargée dans le matin. Ça pose quand même un problème. Voilà. Mais ça peut être utile juste pour passer des pointes très transitoires. Par exemple, la pointe de 19h. Sachant que à partir de 21h, on est loin de la pointe et il y a de nouveau de la disponibilité sur le réseau pour changer le réseau.
Il y a d'autres questions? Oui. J'ai vu là-bas. Oui, il est là. Allez-y.
Bon,
alors, oui, le problème de 100% nucléaire, sur le papier ça marche. La difficulté, c'est qu'il faudrait énormément de centrales nucléaires, pourquoi pas, mais il faut les construire. Il faut des emplacements pour les installer. Alors, à l'heure actuelle, ce que j'ai envisagé, c'est d'installer des nouveaux réacteurs sur les sites existants. Alors pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'il paraît très peu, très difficile en fait, d'ouvrir de nouveaux sites nucléaires en France. Ceux qui sont ouverts sont maintenant, sans exception, une exception près, mais même pas à dire, acceptés par les populations locales et qui en redemandent. Donc installer des nouveaux réacteurs sur les places disponibles ici, ça ne pose pas de problème. Mais avec ça, on n'arrivera jamais à faire ça. Donc, voilà, sur le papier, c'est très bien, mais on va faire 100% en 2050, c'est beaucoup plus impossible, parce que ça va être prêt de construire beaucoup trop de réacteurs, c'est pas réaliste. Donc, il faut quand même bien se mettre dans la tête qu'on aura aussi besoin d'éoliennes. En quantité supérieure à ce qu'on a fait. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'éolien en mer qui tourne. Ça va commencer le premier pas. Donc, on ne peut pas raisonner en exclusivité. On n'a pas de volume, ça paraît. Le problème, c'est le dosage. Et selon le dosage, on se met en risque ou au contraire, on évite le risque. Raisonnablement,
le nucléaire qui pourra faire 100%.
Franchement,
aller
au-delà de
70%,
c'est difficile.
Je pense qu'il y a des limites industrielles aussi qui font que c'est très difficile d'aller plus vite. Bon, effectivement, il y a du travail qui est fait actuellement effectivement, par l'EDF et aussi par le gouvernement avec cette nouvelle loi sur le nucléaire qui va essayer de proposer quelque chose pour que les délais. Notamment les délais d'autorisation sont un petit peu plus courts, mais on reste toujours dans des durées relativement importantes, notamment d'autorisation et de gestion des dossiers. Et je pense que là, il y a du travail, et je pense que PLC travaille beaucoup sur ce sujet.
Là, je vais parler des grands réacteurs. Alors, il y a des SNR, sont des engins de plus petite taille qui devraient être construits en série et qui pourraient être mis en d'autres endroits que les sites actuels, c'est-à-dire sur d'anciens sites de centrales à charbon déplacé ou en fuel déplacé. Pourquoi on pourrait les disperser davantage? Parce que l'un de nos objectifs, c'est de faire en sorte qu'ils aient une sûreté très sec. C'est-à-dire que même en cas d'accident ou de pluie ou de pire, il n'y ait strictement aucun rejet et que ça se passe automatiquement. À l'heure actuelle, s'il y a un désordre, s'il y a un accident, on compte sur la compétence, sur les automatismes qui existent, sur la compétence des opérateurs pour régler la situation. Avec les SMR, on pourrait espérer que ça se passe tout seul. Donc, avec ça, on a une vie de sûreté qui est quasiment garantie dans tous les cas. Et on pourrait installer les SMR à d'autres endroits, ce qui pourrait venir compléter le parc des grands. Mais il coûte beaucoup cher, il faut le savoir.
Bien, une autre question. Oui, vous avez beaucoup parlé de nucléaire, des centrales nucléaires, notamment en Amérique, et le plus vous avez parlé pour les nouveaux réseaux. Et est-ce qu'à ce moment-là, vous avez juste la fission nucléaire, ou est-ce que ce nouveau réseau et puis le nucléaire dans le futur inclut la fusion pour pourrait produire plus d'énergie.
Le réseau, il inclut l'électricité. Après, les machines produisent de l'électricité. Le jour où la fusion fera de l'électricité, on les utilisera sur le réseau. Le problème, c'est que la fusion, c'est pas artificiel, probablement. Du temps où c'est parti.
La fusion, on en est encore, je vois des démonstrations qui
vous voyez. Et ITER, qui est une énorme machine, n'est pas une machine électrogène. C'est une machine pour réactiver les systèmes de fusion sans déchets. Il ne prendra pas d'électricité. Donc, vous voyez, c'est pas sorti de l'eau.
Je voulais aussi faire une remarque, 100% nucléaire, ce n'est peut-être pas la bonne solution. Aujourd'hui, on se rend compte que les problèmes de mobilité, de sécheresse, donc il vaut mieux avoir autre chose. On n'est pas à l'abri de devoir fermer les centrales, parce que pas fermer, de ne pas pouvoir les utiliser, justement par sécheresse, on n'aura pas la source froide. La question que je voulais poser, l'Allemagne a déjà eu le cas, il y a trop de vent en mer du Nord, ils ont une production qui est largement supérieure à la consommation. Je sais qu'ils ont même vendu l'électricité, mais ils ont payé les clients pour absorber leur surproduction. On n'arrive pas à déconnecter les éoliennes au reste du réseau.
Ah ben si, oui. Si, l'électricité en double disjoncteur, simplement dans le modèle économique actuel, la commission a décidé que ces énergies étaient prioritaires et donc elles passent avant toutes les autres. Et ce qui a conduit certains effets à des prix négatifs, des prix d'électricité négatifs, ce qui est une aberration totale. Quoi. Voilà. Et donc c'était le moyen pilotable qui devait s'effacer. Et ça coûte cher aux producteurs de l'électricité, puisque c'est la charge, etc. C'est un coût, c'est un manque à gagner, c'est tout. Si, mais sinon, déconnecter les machines, si, heureusement.
Y a-t-il d'autres questions? Très bien, je crois que vous avez demandé un petit exercice. Donc on va le faire. Oui. Voilà. On nous a demandé, et je crois que c'est pas mal, de vous expliquer pourquoi on est devenu ingénieur. Je pense que c'est intéressant pour vous qui êtes en place préparatoire. Moi je suis Adrien, je suis ingénieur arts et métiers, c'était à l'époque, on faisait le prépa en 4 ans, et puis ensuite, il a fallu travailler. Alors pourquoi choisir le métier d'ingénieur? Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'a présenté c'est ça qui est, je crois, au cœur de nos envies, c'est de pouvoir comprendre. Et pour comprendre, il faut maîtriser pas mal de choses. Il faut maîtriser de la physique, il faut maîtriser de la chimie, il faut maîtriser les mathématiques, il faut maîtriser les sciences, aussi les sciences humaines, parce qu'à un moment, il faudra manager. Eh bien, moi, je pense que dans le métier d'ingénieur, c'est ça qui fait qu'on rêve. Moi, j'ai rêvé, j'ai mis dans ma carrière, ma carrière au commissariat à l'énergie atomique. J'ai eu différentes responsabilités, mais aussi, comme jeune ingénieur, j'ai eu à créer des machines, à faire tourner, à manager des équipes, à travailler sur un réacteur nucléaire. Je me suis même occupé de démantèlement d'installations nucléaires. Vous voyez, un métier qui est riche, il faut du savoir. C'est pour ça que je pense qu'on vous demande beaucoup. On demande beaucoup aux classes préparatoires. Et puis ensuite, en école d'ingénieur. Mais derrière, c'est quand même passionnant. Je peux vous dire que je suis à la retraite aujourd'hui, évidemment, je regrette toujours de ne plus être actif, mais je compense en étant président de la semaine, enfin, du groupe régional de la semaine, et puis à m'occuper toujours des questions d'énergie, mais je pense qu'on l'a, une fois qu'on est devenu ingénieur, on l'a au fond de ses tripes. Et puis, bon, il y a aussi, je crois que dans notre école, ce qui est très intéressant, c'est cette solidarité aussi entre élèves, et puis ensuite entre ingénieurs, dans les, je dirais, dans d'autres carrières. Donc, voilà, mais métier passionnant, qui, je crois, concilie l'ensemble de ce que l'on peut espérer, c'est-à-dire bien être un gentilhomme ou un honnête homme, arriver à bien comprendre le monde qui nous entoure. Ça aussi, c'est important. Et le comprendre, c'est, je pense, quelque chose d'important qu'on veut être aussi un citoyen. C'est-à-dire, si on comprend mal ce qui se passe autour de soi, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Moi, pour moi, ce que j'avais à dire. Georges, tu as sans doute arrêté.
Oui, j'aborde totalement le sens. Le métier d'ingénieur est d'abord extrêmement bizarre. Avec un bon diplôme d'ingénieur, on peut aller dans tout un tas d'endroits différents. Si on est passionné d'aéronautique, on va dans l'aéronautique. Si on est passionné de tourner, on va dans l'aéronautique. Si on est passionné d'énergie, on va dans l'énergie. Et je sais qu'il va y avoir énormément de nouveaux boulots dans l'aéronautique. C'est ça, ça va être. Mais le problème énergétique, c'est le problème numéro un de la pénurie. C'est la décarbonation de l'énergie. Ça va demander d'énormes compétences d'ingénieurs. Et donc, c'est un combat. Quand on prend des diplômes d'ingénieur, on est face à un combat. Le problème, c'est même de choisir qu'on va aller quelque part. C'est ce qui m'est arrivé. Parce que c'était une époque où il n'y avait aucun problème en France. Et j'ai dû réfléchir pour savoir où je voulais aller. Donc voilà, j'ai passionné la vie. À l'époque, Airbus faisait un ami en parent, je me suis dit, c'est bon, est-ce que c'est pas vrai? Je me suis rentré totalement, je suis allé dans l'énergie. De toute façon, il y a des tas de boulots intéressants pour vous. La capacité d'un ingénieur, c'est avant tout d'avoir appris à apprendre. Parce que quand vous sortez de l'école, vous croyez que c'est vrai que c'est pas vrai. Vous connaissez beaucoup de choses, ça c'est théorique, ça c'est la principale. Mais dès que vous allez dans le secteur industriel, vous allez fonctionner que les fois apprendre de nouvelles choses, beaucoup plus approfondies, parce que c'est pas la même chose que dans votre secteur. Et donc, vous faites attention à la chose. Ça. Ça, c'est la vérité principale. Parce que c'est d'autant plus important dans le monde actuel, parce que il y a vraiment des boulots de la vie qui n'existent pas, qui vont exister. Il faudra créer quelle forme ça va être.
Bien, ben, merci encore. On peut l'appeler Georges Hugo. C'est une énergie liquide, je ne sais pas combien ça fait.
Thank you.
y a effectivement une machine qui s'appelle Terre, qui permet de faire de la fusion par le confinement magnétique. Et avec ce que l'on appelle des bobines supraconductrices. Pourquoi on fait, je ne sais pas si vous connaissez un peu la fusion, donc pour arriver à avoir les bonnes températures, les bonnes pressions, pour arriver à avoir la fusion, donc ça on utilise, d'une part, et ben, il faut ioniser par les bonnes plasma, et puis il faut confiner tout ça pour les atomes sur les. Donc ça, on a besoin de gros aimants. Alors, il y a des machines comme Terre, et qui permet effectivement, a priori, d'atteindre ce qu'on appelle l'ignition, c'est-à-dire de produire au moins déjà autant d'énergie que celle qu'on a utilisée. Alors ça, c'est une première type de machine, et il y a des machines qui sont aujourd'hui en développement, qui pourraient effectivement être sans doute plus efficaces peut-être que des tacamales, c'est ce qu'on appelle les stars. Et là, on a une manière de tourner et de faire le plasma. C'est toujours un peu, mais on fait le plasma d'une autre manière. Voilà. Et alors là, les aimants à faire, c'est tout bon. Et puis la deuxième chose, c'est que dans un réacteur à fusion, vous avez beaucoup d'énergie sur très peu de surface. Et donc, évacuer ces deux énergies, on regarde un élément de fusion, une centrale nucléaire, c'est déjà pas si simple que ça d'énergie. Et vous avez une surface énorme, qui fait que les watts par mètre carré sont vraiment modestes. Quand vous êtes sur un réacteur de fusion, là, vous avez en gros un facteur 10 à 5 la traînée sur les foulées. Donc c'est la troisième difficulté, c'est d'arriver à ce qu'on appelle l'autoconsommation, parce qu'il faut arriver à l'autoproduction, à produire autant de tritium qui est l'élément radioactif qui permet la réaction de l'intérieur, et donc en produire autant que ce qu'on en a trop semé. Ça, ça veut dire qu'il faut mettre du lithium optique qui est liquide. Ça redevient compliqué. Parce que vous avez, quand vous faites une réaction de fusion, vous avez un neutron. Ce neutron, vous le captez par le choix. Si vous refaites un cycle de fusion avec le plomb, vous mettez du plomb. Et le plomb, ça va permettre de faire une multiplication de neutrons. Donc vous avez un neutron qui tape le plomb, il en est naturellement avec. Donc là, vous pouvez arriver peut-être à faire un. Donc il y a encore énormément d'échappements. Mais les gens continuent à travailler. Il y a quelque chose qui doit s'appeler des trous, je crois.